Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez XCast. Le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox.
La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
Lionsgate est un studio de cinéma réputé pour abriter les licences les plus emblématiques du cinéma d'horreur au début des années 2000 et notamment avec un film Blair Witch. Sorti au cinéma en 1999, il avait fait un énorme bruit avec son budget de 60 000 $. Une direction artistique unique, tournée caméra low cost à l'épaule, sans effets spéciaux et 3 acteurs. Le film est présenté au public comme l'unique témoignage des derniers instants d'une jeune femme et 2 hommes tournant un documentaire pour leur cours de cinéma sur une sorcière qui hante la forêt de Blair. Les Jones se perdent, repassent par les mêmes endroits et subissent les assauts de la sorcière. Pour la petite histoire, les responsables de la communication du film ont décidé de le présenter comme réel. Mais en réalité, ils ont utilisé de faux documents, rapports de tribunaux contrefaits, faux témoignages et vidéos, rapports de police inventés pour décrédibiliser l'aspect authentique du film. C'est tellement bien ficelé que tout un folklore est né avec le film, possédant même une fin cachée. A noter que le film est un succès qui rapportera près de 250 millions de dollars et donne naissance à un nouveau genre et toute une série de productions qui, pour moi, n'a jamais réussi à dépasser la qualité de Blair Witch.
Quoi que Mike dise maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. Fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir.
Comme la plupart des entreprises de divertissement, Lionsgate décide donc d'étendre son parc d'activités en ouvrant un département jeux vidéo, probablement d'édition uniquement, et de s'unir avec Bloober Team pour faire sortir de cette vieille forêt la sorcière de Blair.
C'est quoi ça ?
Le gars qui a mis ces images en ligne dit qu'elles viennent d'une cassette qu'il a trouvée dans la forêt de Black Hills. Je crois que ça pourrait être ma sœur.
Le jeu prend place 2 ans après les événements du premier film. On incarne Ellis Lynch, un ancien officier militaire, empreint d'un trouble de stress post-traumatique. C'est écrit au tout début du jeu, c'est pour ça que je le sais. Et qui tente de se rendre utile auprès des services de police de sa communauté. Il sera envoyé par son ami le shérif, Emmett Lanning, dans la forêt de Bucketville afin de rechercher un enfant disparu. Comme tous les jeux du studio, la vue à la première personne est de mise. Et pour la première fois, nous apprécions l'aide d'un compagnon à 4 pattes, le chien policier Boulette, balle en anglais. Rien à voir avec la boulette donc. On apprend rapidement, souvent à travers de flashbacks, qu'Ellis est une personne déterminée due à un important sentiment de culpabilité lié à un état de choc. Ses proches, et notamment sa compagne Jess, ne le supportent plus au quotidien. Emmett regrette presque de lui avoir confié cette mission. À l'instar de Ninja Theory, les troubles mentaux semblent vouloir toucher la Bloober Team. Les quelques infos que j'ai pu dénicher sur ce sujet me permettent d'affirmer que les développeurs transcrivent parfaitement les symptômes dits persistants, intrusion de flashback, cauchemar et angoisse, un relationnel entravé par des réflexes d'évitement obligeant Ellis à se replier sur lui-même. Et c'est pour cette raison qu'Ellis entretient une relation fusionnelle avec Boulette, seul être vivant à avoir de la compassion pour lui.
On l'a trouvé !
C'est pas ta sœur, ça peut pas être elle !
Bouge pas ! Mets-toi dans le coin ! Regarde pas !
Le chien est son principal pilier. Boulette vous guidera et vous avertira de la présence d'un indice ou d'un danger. Et c'est à travers une roue d'icône que vous pouvez lui faire plusieurs actions, comme fouiller, le rappeler quand il s'échappe, le complimenter ou le réprimander. Ne souriez pas, il ne faut surtout pas négliger ses fonctionnalités. puisqu'il existe trois fins différentes qui découlent de la relation entre Alice et Boulette. D'un point de vue gameplay, il y a beaucoup plus d'éléments de puzzle game que dans leurs précédents jeux. On reste toujours dans le même schéma, comme des engrenages à trouver pour démarrer un groupe électrogène. On pourra également stocker des éléments dans un sac à dos et avoir des conversations scriptées avec la femme d'Alice et le shérif. La forêt est un élément essentiel de level et de game design. Elle vous plonge dans le jeu et de mémoire de joueur, je n'ai jamais joué à un jeu aussi sombre. Préférez jouer dans l'obscurité la plus complète plutôt que d'augmenter la luminosité de votre écran. Les graphismes pourraient devenir plats et sans saveur. Cette forêt est absolument incroyable. Chaque arbre est unique, la diversité des végétaux, la topologie est ultra réaliste et la visibilité est ultra réduite due à une forte densité de la flore. Les chapitres de nuit sont terrifiants, même si vous avez une lampe torche, le champ de vision est encore plus réduit. J'ai eu beaucoup de mal à m'orienter, non pas parce que c'est mal indiqué à l'écran, mais c'est volontairement que les devs n'ont matérialisé aucun chemin vraiment distinct. Et ça permet de demander de l'aide à Boulette et il a été d'un très grand secours pour moi. Dans ce jeu, les développeurs ont beaucoup moins abusé des événements ponctuels pour faire sursauter les joueurs, comme ce fut le cas dans Layer of Fear. L'accent est mis sur l'ambiance générale d'une forêt, et là, le son binaural est gargantuesque. C'est même la pierre angulaire de tout le jeu. Il est absolument crucial pour une bonne expérience d'utiliser un casque. On est embaumé de sons d'environnement forestier, des oiseaux et un vent permanent dans la cime des arbres. Et c'est inutile de vous préciser que plus vous vous enfoncerez dans cette forêt, plus le studio enrichit la bande-son de moult craquements, sons de pierres qui s'entrechoquent et autres bruitages de l'enfer. Évidemment, plus on avance et pire ce sera. On ressent vraiment un poids sur les épaules, l'ambiance y est assommante. Si la Bluebird Team a parfaitement réussi son coup dans la reproduction fidèle de l'esthétique visuelle et sonore du film, le studio n'en a pas oublié les ingrédients de game design de la potion magique qu'il aura réussi dans la marmite Layer of Fear. Ils vous proposeront trois éléments de réalité alternative. D'abord, au début de la partie, vous trouverez un camp avec un caméscope. Il faudra tout au long du jeu retrouver avec Boulette des cassettes vidéo qui proposeront de courts extraits montrant l'enfant recherché. Si au premier abord le contenu semble inutile, il y a dans chacun de ces extraits un objet qui n'apparaît dans la réalité qu'au moment où l'objet apparaît dans la vidéo. Il faudra mettre pause au bon moment, au bon endroit pour obtenir l'interaction obligatoire pour poursuivre la progression. Ensuite, des monstres feront leur apparition, et quand ils sont là, ils sont invisibles. Seule la lumière de votre lampe torche pourra révéler une ombre ultra rapide. Vous les entendrez tourner autour de vous et murmurer dans les oreilles. Boulette et ses grognements vous aideront à les repérer et à vous en débarrasser à l'aide de la lampe. Attention toutefois de ne pas perdre Boulette, car les ombres s'en prendront à lui. Enfin, comme dans tous les jeux du studio, dès la fin du premier tiers, le scénario se fait oublier et fait la part belle aux propos à travers une série d'hallucinations et de flashbacks démentiels afin de nous plonger dans le cœur du jeu, la révélation sur le passé d'Alice. les développeurs usent et abusent des effets visuels. Si les flashbacks s'incrustent avec la même force que dans leurs autres œuvres, les hallucinations sont représentées par un mix progressif entre la forêt et les souvenirs entachés de douleur et de violence d'un conflit armé dans un pays vraisemblablement chaud et sablonneux. Ce moment où l'on court après le chien perdu de vue à travers les grands arbres et que les dunes apparaissent avec un ciel qui devient rouge sang, du feu, des flammes, des coups de feu à gauche et puis à droite, on court, et puis cette voix dans votre talkie-walkie.
Mais putain, mais ta gueule!
C'est quoi ce délire?
Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai!
Ça me dit quelque chose. On est en train de tourner en rond.
Mais bordel de merde, mais t'as rien dans le boulot ou quoi?
Oh mais quoi, laisse-moi les appâter un peu là. Bon, est-ce que la fin qui atteint des sommets dans l'univers de Blair Witch, je peux le dire ça quand même?
Ça va aller,
okay.
Ça va aller,
okay.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
Vous l'aurez compris, la Bluebird Team, au travers une licence cinématographique, réussit avec brio à adapter cette construction de jeu qui leur est propre, à savoir substituer un scénario par un propos à travers des réalités alternatives. Personnellement, je trouve que le mariage, la licence Blair Witch et la Bluebird Team coule finalement de source. Les protagonistes se perdent physiquement et se perdent mentalement pour ne trouver qu'au final leur vraie nature. J'ajouterais que si les ravages physiques ont souvent été montrés dans les médias, je pense qu'il est très difficile de montrer une détresse psychologique. Et de mon point de vue, Blair Witch est une véritable leçon sur la manière de montrer et de faire vivre un propos très dur dans un jeu vidéo. Réussir à ce point de le mélanger avec une des licences les plus marquantes du cinéma d'horreur confirme cette place de maître la matière que j'accorde le plus honnêtement du monde à ce studio devenu pour moi incontournable. À bientôt dans un prochain podcast. Ciao.